Il est 23h28, vous êtes sur Europe 1, en direct du studio Coluche, comme tous les soirs, qui est plongé dans l'obscurité. Nous vous écoutons, nous vous attendons. C'est votre libre antenne qui vous accompagne encore et toujours jusqu'à 1h du matin en direct. Nous accueillons Mélanie au 3921. Bonsoir Mélanie.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir, comment allez-vous ?
Je vais très bien, merci, et vous ?
Bon, très bien, très bien. Écoutez, moi je suis toujours très heureux d'être là, donc tout va bien. Comment se passe ce confinement, Mélanie ?
Écoutez, il se passe très bien. Moi j'ai vraiment décidé en conscience de vivre cette période en énergie créatrice, régler dans la matière des choses que je ne fais pas forcément quand je suis dans l'activité, et puis aussi de prendre le temps d'être encore plus en conscience, encore plus dans le cœur, de donner vie à mes projets.
Oui.
Voilà, c'est plutôt une période que je vis positivement.
D'accord. Alors, dites-moi quel type de projet vous mettez comme ça en projection, en fait. Qu'est-ce que vous faites ?
Alors moi, je fais plusieurs choses. Je suis coach humaniste et spirituelle, et je suis auteure et comédienne et conférencière. Donc du coup, c'est une période forcément où j'ai plus de temps. Travaillant pour moi, j'ai beaucoup plus de temps. Donc je donne vie à des projets créatifs pour continuer les accompagnements avec d'autres modèles. Moi, j'adore accompagner vraiment l'être à s'éveiller et à se rencontrer dans sa puissance créatrice, et du coup c'est une super période avec une sœur avec qui je travaille de cœur, mais on donne vie à de nouveaux projets.
Et ça vous est venu quand, ça ? Est-ce que c'est souvent dans la vie, vous savez, on décide d'un seul coup de prendre un peu plus son destin en main, et souvent c'est d'une épreuve ou d'une rencontre, en tout cas d'une épreuve, qu'elle soit dure ou pas dure obligatoirement, mais en tout cas qu'elle ait un sens particulier à ce moment-là de notre vie, que les choses changent. Est-ce que pour vous il y a eu quelque chose qui vous a décidé à prendre cette voie-là?
Oui, moi c'est vraiment mon histoire de vie. Je crois vraiment. Alors moi, j'aime à croire qu'on choisit son incarnation, que notre âme choisit une incarnation. Et moi, dans la vie que j'ai choisi une famille qui paraissait équilibrée les premières années, puis qui est tombée assez vite dans la drogue, alors que j'avais 5 ans. Donc déjà, j'ai eu une enfance un peu singulière, on va dire, parce qu'ils sont tombés dans le monde de l'héroïne. Donc ça a été une première partie de vie. À part, l'héroïne, c'est vraiment un monde dans un monde. Donc ça a été une première partie qui, je pense, moi déjà en tant qu'enfant, m'a fait vivre une enfance un peu particulière.
Ouais, je m'en doute pas. En fait, vos deux parents consommaient cela ou
Ouais, mes deux parents et mon grand frère.
Et votre grand frère.
Donc toute la famille.
D'accord.
Toute la famille. Ils ont démarré, j'avais à peu près 5 ans. Et puis ça a été une descente aux enfers, parce qu'ils ont démarré, ils avaient déjà leurs deux enfants, ce qui est assez rare en général. Ouais.
Quel âge avaient-ils en fait quand ils ont démarré ça ?
Ils ont démarré, ils devaient avoir une trentaine d'années à peine, je pense.
D'accord, incroyable.
À peu près, une trentaine d'années.
Et dans quelle région c'était ça ?
J'ai été sur Nantes.
Sur Nantes, d'accord.
Oui, tout à fait.
Et vos parents faisaient quoi dans la vie ? De quel milieu vous étiez ?
Avant cela, ma mère était secrétaire de direction, mon père avait fait plusieurs métiers, et puis après il s'est lancé en tant qu'entrepreneur, il était commerçant, il vendait des bijoux fantaisie, donc ils se sont mis à travailler ensemble, ça fonctionnait plutôt bien, ils ont d'abord travaillé dans un centre commercial, et puis après ils ont ouvert leur boutique, mais bon, avec en parallèle cet univers de la drogue, ça a été une douce descente aux enfers en fait. Et puis mon père est tombé cardiaque, il s'est arrêté de travailler, et puis il est devenu dealer, il faisait partie du milieu nantais, enfin ça a été vraiment un changement de paradigme, on va dire. Et quand j'ai été adolescente, j'avais à peine 14 ans, j'ai perdu mon frère, et puis 3 mois après j'ai perdu mon père.
Vous avez perdu votre frère dans quelles circonstances ?
Alors, il s'est noyé. Il était parti décrocher, il s'est noyé. Il y a un peu des incertitudes sur sa mort, mais en tout cas, ce qui en est resté officiellement, c'est qu'il serait noyé, il serait tombé dans une rivière, il serait cogné la tête et il serait noyé.
Voilà.
Et donc
il
ça,
avait
c'était.
Il avait
21 ans.
D'accord. Ça a
voilà,
dû
et puis...
beaucoup vous secouer, ça, déjà.
Oui, bah oui. Alors moi, j'avais 14 ans, alors c'était. C'était assez troublant, surtout que je devais le rejoindre le lendemain en vacances. Donc ça a été un premier drame, ouais, assez troublant. Et puis surtout, c'est la première fois où j'ai vu mon père vraiment dans une grande fragilité.
Bien sûr,
je pense
bien sûr.
Dans une très grande culpabilité aussi. Donc oui, ça a été assez prégnant. Mais vu que lui-même, 3 mois après, est mort, finalement, ça a un peu assez vite effacé... effacer ce premier
ouais.
drame pour le faire grossir par ce second drame.
Est-ce que votre frère a pris de l'héroïne parce que votre père et votre mère en prenaient ?
Ben, je crois pas. Alors, j'ai pas toutes les infos parce que moi, j'étais enfant, donc je n'étais pas au courant de tout, mais je pense que ça a été en parallèle. Après, tout ça, c'est des co-créations. Hein. Je pense que quand on nourrit des choses, on fait miroir sur des choses et forcément, les enfants le reçoivent. Et mon frère était quelqu'un de très artiste, mais de qui n'avait pas forcément envie de bosser, qui n'avait pas envie de rentrer dans une société classique. Donc
ouais.
Je pense que ça l'a invité aussi à aller là-dedans. Mais il s'est drogué assez jeune parce qu'il a dû commencer à se droguer. Il devait avoir 16 ans à peu
ouais,
près, donc
ouais.
il est hyper jeune.
Ouais. Oui, c'est 16 ans, c'est très jeune. En province en plus, bon, mais l'héroïne... Et partout depuis longtemps,
ouais.
hein, puisqu'elle elle a décimé,
ouais.
elle décime nos campagnes depuis bien longtemps.
Bien sûr, bien sûr.
Je me rappelle, vous voyez, je me souviens avoir fait un film à Rotterdam à l'époque sur justement ces filons de la drogue, hein, ces filons qui alimentaient toute la France. Et,
ouais.
et je me souviens avoir croisé un nombre de voitures immatriculées en Bretagne et du côté de Nantes, Loire-Atlantique aussi, j'en ai croisé beaucoup.
Ouais.
On s'était d'ailleurs fait la réflexion avec mon équipe de voir le nombre de... Bon, déjà, de voir le nombre de voitures françaises qui étaient pourchassées par les rabatteurs des dealers, vous voyez. Mais,
ouais.
mais on s'était fait la réflexion de voir un grand nombre de personnes qui venaient de Bretagne, justement, et de Loire-Atlantique.
Ouais, il y avait un vrai milieu de
dans
top.
Les,
hein,
dans les 40, c'est l'immatriculation de Nantes, c'est quoi? C'est 40, 44,
44.
C'est ça
44, ouais,
voilà. Vous voyez
je,
ça me, vraiment, ça me revient de manière très précise parce qu'on avait croisé vraiment beaucoup, beaucoup de personnes comme ça. Enfin, beaucoup d'immatriculations. Et donc, on avait suivi un peu tout ça pour venir dans les campagnes du côté. D'ailleurs, c'était pas du côté de Nantes, on était atterri du côté dans la campagne rennaise. Et où on voyait combien l'héroïne faisait des ravages chez les jeunes des campagnes, quoi. Et où finalement à l'époque en province en fait et dans les campagnes encore plus, la gendarmerie n'était pas encore consciente qu'il y avait tous ces produits là qui traînaient et qui faisaient que la jeunesse était en train de se perdre là-dedans, quoi. Donc ça ne m'étonne pas que votre frère ait croisé ça à l'âge de 16 ans. Mais ce qui est très étonnant, c'est de voir vos parents croiser ce produit à 30 ans et tomber dedans à 30 ans, c'est particulier.
Ouais, j'ai pas d'explication très concrète. Moi, je crois que, c'est ce que je me suis raconté de ressenti, mais je pense que c'est mon père d'abord qui est tombé dedans et qui a plutôt entraîné ma mère. Enfin, ma mère s'est laissée entraîner là-dedans, hein, parce qu'on est responsable de nos choix. Et je crois qu'une part de lui aurait eu envie d'une autre vie. Il parlait souvent de vouloir faire un tour du monde en bateau, etc., etc. Et que ça a été un peu son évasion à lui. Et même si dans les années 80, parce que c'était voilà, début des années 80, donc oui, ils avaient la trentaine à peu près, hein, un peu plus. Et on savait, mais on ne savait pas encore. C'est-à-dire que les gens croyaient qu'ils géraient. Moi, j'entendais beaucoup parce que du coup, faisant partie de ce milieu, j'ai croisé énormément de toxicos.
Oui.
Et je les entendais très souvent dire « non, mais je gère », alors qu'ils géraient déjà plus et que l'héroïne apporte bien son nom. Hein, c'est elle qui gagne dans les films. Et elle avait déjà gagné, elle s'était déjà complètement emparée d'eux, mais ils avaient le sentiment de gérer ça.
Oui, oui. C'est souvent un sentiment qui fait que cette sale histoire dure beaucoup plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Mais bon, votre père en fait et votre mère n'avaient, avec les bijoux fantasy, je pense ça comme ça, c'est une hypothèse. En fait, ils n'avaient pas voyagé en Inde ou en Indonésie pour acheter leurs bijoux. En fait, c'est pas là qu'ils avaient découvert
ça. Non, il faisait venir ses stocks et tout. C'est vraiment, elle est venue les rencontrer chez eux.
Chez eux. Donc, du coup, vous me disiez que vous, adolescente, vous étiez donc témoin de la situation de vos parents qui étaient devenus dealers.
Ouais, mon père était devenu dealer. Bah ouais, et puis ça avec du recul. Mais par exemple, j'ai réalisé plus tard que quand on venait chez moi, quand nous on rentrait chez nous, on faisait un code avec la poignée, par exemple. Il y avait la porte de la cuisine qui, à partir d'une certaine heure, était fermée et c'était le moment où les gens venaient chercher leur drogue. Ma mère, sa deuxième maison, c'était les toilettes. Enfin, voilà, il y avait plein de choses comme ça qui sont vues sans être vues et qui font partie. Qui font partie du décor, qui font partie du quotidien.
Mmh. Alors, on sait que 14 ans, une jeune fille, adolescente, à cet âge-là, on se construit, hein, on est en pleine, en pleine construction. Et donc, au final, quelle jeune fille ça faisait de vous? Parce que le père est très important aussi à cet âge-là. Donc, ça faisait une jeune fille comment?
Ben, moi, je crois que j'ai réussi quand même à le maintenir en héros. Alors, un héros illusoire, hein, mais je pense que j'ai maintenu et que ça a vraiment participé à ma construction, mine de rien, et à ma survie. C'est que, parce qu'en plus, c'était des tox, mais j'ai toujours dit, moi, je faisais partie d'une famille de tox de luxe parce que j'avais plein d'enfants de parents tox que je voyais dans la rue tout le temps, enfin, qui étaient complètement livrés à eux-mêmes. Et comme moi, j'ai quand même eu une base, hein, 0,5 ans, c'est une base super importante, j'étais dans une vie d'ambivalence. C'est-à-dire que oui, il y avait toute cette drogue, oui, il y avait cette descente aux enfers, mais il restait quand même des prémices de cette famille qui avait existé, de ce pseudo-équilibre qu'ils avaient eu à un moment donné, etc.
L'éducation.
Donc du coup, exactement, d'éducation et puis de construction, puisqu'ils avaient quand même construit, mon frère avait 7 ans de plus que moi, donc ils avaient quand même construit une famille, etc. Et donc moi, je baignais dans l'ambivalence. Donc je me construisais tant bien que mal. Je pense qu'il y avait, bon, forcément, ça a beaucoup joué sur mon estime de moi. Et puis quand on est enfant de drogué, on fait peur, hein, on est différent, les gens le savent. Hein, donc les parents de mes copains, je pense, leur chuchotaient à l'oreille de ne pas trop m'approcher parce que ça pouvait être contagieux, ce truc-là.
Vous pensez qu'il y avait beaucoup de parents qui avaient décelé que vos parents étaient drogués?
Ouais, en tout cas, qu'il y avait quelque chose. Que qu'il c'était différent et que, ouais, ça. Parce que je me souviens même en primaire, à la fois j'étais entourée et à la fois j'étais très solitaire. Donc voilà, donc moi j'ai beaucoup baigné dans l'ambivalence, j'étais beaucoup avec moi-même, donc j'écrivais tout le temps, ça m'a beaucoup sauvée, je passais ma vie à écrire sur des cahiers, sur des feuilles, j'écrivais tout le temps des toutes petites. Je pense aussi que je me souvenais de quelque chose, mon âme était présente parce que je me questionnais très jeune, je me suis questionnée sur la vie, je me souviens que le soir avant de m'endormir, je devais me forcer d'arrêter de penser sur comment était né le monde en fait. Et je devais donc il y avait quelque chose quand même. Mon âme était avec moi depuis toute petite. Je ne le savais pas encore, mais donc je me construisais comme je pouvais. J'avais quand même à la fois, je pense, une souffrance et à la fois, j'arrivais tant bien que mal à être dans le mouvement de la vie.
D'accord. Donc lorsque vous avez 18 ans, en tout cas lorsque vous êtes en âge de pouvoir quitter cette maison, est-ce que vous la quittez
Avant ça, déjà, comme j'ai perdu mon frère et mon père à 15 ans, je me suis retrouvée.
J'avais pas compris que vous étiez aussi jeune, mais vous perdez donc ce frère à 15 ans et 3 mois plus tard, votre père, c'est ça?
Oui, exactement. Ouais. Je perds mon frère en octobre 89, mon père en février 90, et au mois de mars, j'ai 15 ans.
Et vous m'avez dit, que votre papa était parti de quoi? D'une crise cardiaque?
Une crise cardiaque, exactement.
D'accord. Oui, donc tout ça étant dû à l'héroïne, clairement.
Oui, à la culpabilité, je pense. Que la perte de son fils, il a pris conscience de tout le désastre qu'il avait créé dans sa famille, en fait. Toute la dysfonction... Et voilà, donc là, je me retrouve la mère de ma mère. Ma mère se drogue plus, du coup, mais elle est en vrac entre les médocs et l'alcool. On se retrouve endettée parce que, forcément, à force d'une vie d'héroïne, les dettes s'accumulent et donc on est endetté. Oui. Donc, je me retrouve à 15 ans où mon adolescence qui a à peine commencé est terminée.
Oui.
Et je dois sortir le bateau de l'eau. Quoi.
Elle arrête immédiatement, votre mère, de se droguer?
Je crois, parce qu'elle n'en avait plus, en fait. Donc, elle fumait des joints. Et là, elle a trouvé un docteur qui lui faisait des ordonnances, il lui faisait des pharmacies. C'était même de la non-assistance en personne en danger. Et donc, elle a comblé ça par des médicaments. Je pense qu'elle a pris de la méthadone à l'époque, etc. Ouais, etc. Ouais. Et puis plein de médicaments, de l'exomil, en passant par plein de choses, plus de l'alcool.
Ce qui est certain, c'est que cela a fait de vous une adolescente... vous êtes vite devenue une jeune adulte, finalement.
Ah oui.
Votre adolescence,
ouais.
elle est passée... en un éclair, l'éclair de la mort qui a traversé votre famille, en fait.
Ah oui, complètement. Et puis je devais gérer surtout, je devais me gérer moi, et je devais gérer ma mère et faire en sorte qu'on ne se retrouve pas à la rue. Donc mon adolescence...
Il n'y avait pas de grands-parents autour de vous
Il y avait mes grands-parents, mais mon grand-père commençait à avoir Parkinson, donc il perdait la tête. Ma grand-mère, je pense, était dépassée par tout ce qui se passait parce qu'elle n'avait rien vu. Et puis, y avait des oncles, des tantes et tout, mais personne n'a été vraiment présent. Donc, je me suis vraiment retrouvée face à moi-même. Je me souviens même que l'école, parce que forcément, cette année-là, c'était mon année de quatrième, j'ai pas beaucoup été présente de par la perte. Et quand je suis arrivée le jour de la rentrée en troisième, le directeur qui connaissait parfaitement mon histoire, qui connaissait, j'étais là-bas depuis la sixième, devant tout le monde, me dit qu'il n'y a pas de place pour moi parce que je me suis pas inscrite. Et il me demande ce que je fais là. Donc, je me suis vraiment sentie abandonnée de tout et de tous. L'État n'est jamais venu me chercher pour que je retourne à l'école alors que j'avais 15 ans. C'est moi qui me suis formée toute seule à la mission locale parce que c'était hors de question que je reste inculte. Enfin, ça a été vraiment... je me suis retrouvée seule. Seule à combattre ça avec un ami. J'avais un très grand... Enfin, j'étais entourée, j'avais des gens autour de moi, mais vraiment un qui croyait en moi. Et qui me disait de me battre, quoi. Mais sinon, ça a été une période assez chaotique. Et puis, j'étais hyper en colère après la vie, parce que j'avais une rage après la vie,
parce que je me demandais
ce qu'était cette vie-là, quoi. Mm-hmm. Donc,
oui, puis à cet âge-là, ça ne peut que se transformer en rage, en réaction à une l'impression que tout ça n'est pas juste, hein, de vivre cette vie-là. Donc,
exactement.
Assez de recul pour y voir un sens et peut-être la possibilité d'en tirer déjà les enseignements. À l'âge que vous aviez, c'était compliqué d'en tirer un enseignement positif, je dirais. Et ce qui fait, donc, vous faites quoi ? Donc, vous occupez de votre mère pendant combien de temps ?
Je m'en occupe sur ces trois années. La chose qui se passe, c'est que je dois avoir peut-être 16 ans et demi, quelque chose comme ça. Parce qu'après, ma mère se remet avec quelqu'un qui tombe de ma fenêtre du 11e étage. Enfin, les drames s'enchaînaient, quoi.
J'ai pas trop bien compris.
Ma mère retrouve un compagnon.
Oui.
Qui lui-même buvait, hein, forcément. Ils s'attiraient entre eux. Et un soir où ils s'engueulent, ils tombent par ma fenêtre. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu un drame, le moment d'avant, je vivais quelque chose d'extraordinaire. Mon frère, je venais de m'inscrire dans un club où il y avait de la danse, je m'étais éclatée. Mon père, j'avais passé une super soirée la veille et je m'étais éclatée, j'apprends ça le lendemain matin. Le jour où Didier tombe de ma fenêtre, la journée, j'avais réussi à décrocher un stage dans un hôtel international parce qu'il y avait le festival des Allumés à l'époque à Nantes où on accueillait des gens d'un pays, c'était absolument génial et j'arrivais à bosser dans l'hôtel où j'accueillais tous ces gens alors que j'avais 16 ans, que j'y avais réussi par moi-même et tout.
Ouais.
Et à chaque fois, donc, il y a tout le temps eu quelque chose d'extraordinaire avant l'annonce d'un drame, comme pour me faire me souvenir que les polarités coexistaient et que le bon existait aussi quelque part au travers de tous ces drames.
Mmh. Ce que vous voulez dire, c'est que quoi ? C'est la polarité, c'est quoi ça ? C'est le bon qui répond
mal ? La polarité.
La polarité, d'accord.
Le fait que tout est polarité, en fait. À chaque fois, il y avait un drame, mais avant, il y avait du bonheur. Et finalement, c'est ce qu'est la vie. La vie est faite de plein d'expériences, et certaines qu'on va vivre positivement, et d'autres qu'on va vivre négativement. Et
que surtout, rien n'est écrit d'avance. Bon, on peut tout de même, je trouve, hein, provoquer le bon, le bien pour nous. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, vous en êtes arrivé à cet état de conscience-là et qu'il se passe beaucoup plus de choses positives, lumineuses et saines dans votre vie aujourd'hui.
Ouais, bien sûr. Bah, c'est ce que j'allais raconter. Un soir, donc, j'étais dans ma chambre et donc je pleurais. Et j'habitais au 11e étage, donc je parlais souvent au ciel et vraiment, je questionnais le ciel, etc. Et j'écoutais, je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, c'est L'hiver dans le fond de son cœur de Cabrel qui parlait. C'est une chanson qui parlait d'une jeune femme qui s'était suicidée à 20 ans et tout. Et je me disais, mais c'est pas possible, ça va être ma vie avec cette vie-là. Et là, j'ai entendu mon âme me chuchoter à l'oreille que j'avais choisi tout ça. Et que ça allait pas toujours être comme ça et que c'était là pour me permettre de transformer tel un alchimiste et que ça avait un sens, que j'avais choisi cette vie-là pour quelque chose. Et petit à petit, cette colère a commencé à se transformer en amour et je me suis dit, ok, bah alors si j'ai choisi tout ça, qu'est-ce que ça vient m'apprendre et qu'est-ce que je veux en faire? Et là, j'ai commencé à reprendre tous les rêves que j'avais depuis petite. Quels étaient mes rêves? Qu'est-ce que moi, ma nature profonde, mon âme, de quoi elle rêvait? Et ça commençait à me mettre en pulsion de vie. Et là, je me suis dit, ok, bah, moi, dans cette vie, je vais réaliser mes rêves. Alors forcément, tout autour de moi, on me disait, mais arrête de rêver, quoi. Tout le monde me voyait finir tox et prostituée pour me payer ma drogue. Et moi, j'avais cette rage qui se transformait en pulsion de vie. Et petit à petit, j'ai commencé vraiment à mettre mon énergie là-dessus et à me dire, ok, si j'ai choisi ma vie et que je mon âme a cette responsabilité de vivre toutes ces expériences pour quelque chose et que c'est là pour moi et pas contre moi, eh bien, il faut que j'aille chercher en moi. Et j'ai vraiment commencé à être dans le développement moi, qu'on appelle le développement personnel, de vraiment apprendre de tout et trouver des ressources en moi. Et petit à petit, j'ai commencé à réaliser mes rêves. Et donc, à 18 ans, ma maman avait trouvé un autre compagnon. J'ai réussi à vendre l'appartement qui était endetté au mec de l'agence. Enfin, petit à petit, il y avait des choses qui... J'arrivais à transformer, en fait, à transformer le plomb en or. Et du coup, je suis partie vivre aux Antilles. Et de là, a commencé un nouveau chemin où j'ai vu que j'étais capable. J'étais capable en suivant mes rêves, d'aller vers ma liberté et de pouvoir commencer à créer une autre vie.
Qu'êtes-vous allé faire aux Antilles?
En fait, moi, je voulais partir vivre en Afrique, mais je me disais, oh là là, partir toute seule à 18 ans en Afrique, c'est un peu chaud. Donc, je me suis dit, les Antilles, ça va être ma petite Afrique. J'étais très attirée parce que quand j'avais 3 ans, je ne sais pas pourquoi, je voulais être noire quand j'étais grande. J'arrêtais pas de dire à ma maman, moi, quand je serai grande, je serai noire et tout. Et elle me disait, non, c'est pas trop possible. Donc, il y a un truc, j'avais une connexion avec ça. Et du coup, je me suis dit, je vais partir là-bas. Et je suis partie, j'ai pris un aller simple. Enfin, j'ai construit ça pour rendre ça possible. J'ai mis ma maman en sécurité. J'ai fait un CES dans une bibliothèque pour avoir un petit peu de chômage sur 3 mois pour m'assurer quelque chose. Et puis, j'ai pris un aller simple et je suis partie. Donc, j'ai commencé par la Guadeloupe. Et de là, je réalisais mon premier rêve. Et donc de là, je
vérifiais que c'était possible. Parce que c'est magnifique, magnifique. La Guadeloupe, la Martinique, ce sont deux terres. D'ailleurs, j'en profite pour les saluer, car je sais qu'ils sont nombreux à écouter Europe 1.
Et
franchement, ce sont deux terres magnifiques, avec des gens magnifiques, bien sûr.
Oui, extraordinaire, extraordinaire. Et puis là-bas, j'ai appris, alors déjà, je me prouvais à moi-même que je pouvais créer autre chose. Que j'étais créatrice et qu'on était créateur de notre vie. Et puis là-bas, c'est extraordinaire parce que j'ai appris la force du présent, j'ai appris la puissance d'être vraiment dans cette qualité de présence dans le présent. Et donc, j'ai continué mon chemin. Et puis de là, ça ne s'est jamais arrêté. Un autre de mes rêves, c'était d'être artiste. Et j'ai fait une sublime rencontre au bout de 6 ans là-bas. Alors, entre-temps, il y a eu d'autres choses. J'ai été maman. Son papa, à un moment donné, est venu chercher ma fille parce qu'on s'était séparés. J'ai été sans voir ma fille pendant 1 an. Mais à côté de ça, j'ai fait cette sublime rencontre qui m'a fait venir à Paris, qui m'a fait naître dans mon chemin d'artiste. Donc voilà, j'ai tout le temps continué. Et puis jusqu'à un jour où je me suis dit que j'avais envie de réapprendre un métier, parce que l'artistique, c'est pas forcément tout le temps... simple et fluide.
Comme nous disait Tiffany hier soir, qui fait carrière aux États-Unis, Tiffany nous disait, beaucoup d'artistes et de musiciens, notamment puisqu'elle faisait de la musique, elle fait de la musique, elle nous disait, il y a un moment, voilà, on doute un peu et on choisit un job. C'est un peu ce qui vous est arrivé ? Vous aviez envie d'avoir un
job ? Alors non, moi c'était hors de question que je trouve un job, parce que moi j'ai une valeur liberté très forte, et puis je n'avais pas construit tout ça pour me mettre à faire un job. Puisque comme j'avais décidé de vivre mes rêves, il fallait déjà, je ne peux pas travailler pour quelqu'un, j'ai vraiment une valeur liberté hyper forte, et donc je voulais faire quelque chose qui soit à la hauteur de l'épanouissement de l'artiste. Donc, qui vraiment m'épanouissent. Et comme je faisais moi du développement personnel depuis toujours, que j'aidais à ce moment-là des gens autour de moi, mais à l'époque j'étais dans le conseil, aujourd'hui plus du tout, mais donc, et j'avais des super retours, ça les aidait, je me suis dit qu'il y avait peut-être un métier. Et puis là, est arrivé très vite à moi le coaching, et tout s'est aligné. J'ai réussi à me faire payer ma formation par la NPE alors que ça n'arrivait jamais. Et puis bah, de là, à démarrer une nouvelle vie. Où je n'ai fait que me former, j'ai pu rattraper, parce que moi j'adorais apprendre, donc quitter l'école à 15 ans, ça avait été très frustrant pour moi, donc je me suis formée pendant 10 ans tout en travaillant en tant que coach et thérapeute à plein de choses, à la gestalt thérapie, à la PNL, à l'analyse transactionnelle, je méditais depuis très jeune, donc j'ai été me former à l'énergétique, au chamanisme, enfin vraiment à plein, j'étais boulimique d'apprentissage et je me régalais, et puis bah, là j'ai vraiment... démarrer maintenant depuis une quinzaine d'années ce métier.
C'est assez incroyable de vous entendre raconter vos inspirations et vos intuitions, surtout parce que hier soir, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter la Libre Antenne, mais Mélanie nous évoquait cette même envie tout à coup d'écouter ses intuitions et de se jeter dans cette intuition et l'envie d'apprendre et à s'écouter.
Vous voulez dire Alexandra ?
C'était Alexandra, pardonnez-moi.
Ouais. Alexandra, c'est ma sœur d'âme, justement, avec qui je co-crée plein de choses.
Ah,
c'est un beau
bien.
Rendez-vous d'âme. Ouais. Et donc, j'écoutais, bien sûr, avec grande joie.
D'accord, avec c'est Alexandra, oui. Donc, vous avez toutes les deux eu ce même passage de vie où c'est assez extraordinaire, d'ailleurs, de vous entendre l'une comme l'autre raconter que tout à coup, vous allez au bout de vos rêves, de vos envies. Vous écoutez ça plutôt que d'écouter ce qui fait notre quotidien. Hein. On parlait du jugement des autres, du regard des autres, du poids de la société, hein, finalement, du poids des codes, qui fait que c'est compliqué aujourd'hui, ne serait-ce que d'évoquer ces rêves. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, et c'est sûrement ce que vous dites à celles et ceux qui viennent vous voir peut-être aujourd'hui pour s'améliorer, se construire un peu mieux, peut-être évoquer ses rêves, en parler déjà. C'est quelque chose
oui,
qui
même s'autoriser à aller les rencontrer en soi.
Exactement.
C'est pour ça que ça nous demande vraiment de nous dépouiller de tous nos schémas, de toutes nos croyances, de tous nos formatages. Moi, je crois que nous sommes nos rêves, parce que justement, nos rêves n'appartiennent pas ou à ce qu'on a reçu dans notre éducation, ou parfois je rencontre plein d'êtres quand ils se connectent à leur rêve n'a rien à voir avec l'éducation qu'ils ont reçue, avec l'entourage qu'ils ont eu, etc. Et moi je crois vraiment que nous sommes nos rêves et que justement se reconnecter à ses rêves permet de se reconnecter à son âme et de retrouver ce que nous avons choisi de venir vivre ici, quels que soient nos rêves, parce que c'est pareil, on a un peu de mal avec ce mot en France, tout de suite on croit que rêve c'est extraordinaire, c'est très grand, mais nos rêves c'est ce qu'on aime être, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est
nos rêves, ça peut être de monter une entreprise de fabrication de chaussures, ça peut être un rêve aussi. Enfin,
bien sûr, ça peut être jardinier et s'occuper de la terre tous les jours, ça peut être quelque chose de très simple, mais qui nous met en haute vibration en fait.
En tout cas, qui est
et
en connexion.
Et je crois que nous sommes là pour ça, exactement. Mmh. Exactement. Et oui, et vraiment, moi, je crois qu'on est juste là pour réveiller sa conscience et réveiller l'être unique et merveilleux que nous sommes avec notre potentiel infini et nos forces et nos fragilités, mais de se reconnecter à ça, que nous sommes bien plus que les humains que nous croyons que nous sommes.
Complètement. Mais vous savez, et vous êtes là pour ça aujourd'hui d'ailleurs, vous devez le remarquer que c'est un chemin difficile pour certains et certaines à faire. Et c'est très bien d'avoir aujourd'hui des coachs comme ça, comme vous et Alexandra, qui peuvent être, de par leur histoire déjà, une référence et une preuve que oui, ça marche. Oui, on peut, du jour où on sent, où on a envie de s'écouter un peu plus. Alexandra a évoqué ce corps hier qui l'alertait, mais qu'elle n'écoutait pas. Je vais régulièrement toutes les semaines voir une acupunctrice qui a pris une grande place dans ma vie et qui me disait l'autre jour respecte ce temple sacré que la nature t'a offert ce corps là tu dois le respecter, tu dois y faire attention parce que tu as eu de la chance. Regarde, tu es en forme, tu as une bonne santé et c'est vrai que on oublie aussi, on s'oublie beaucoup dans cette vie tumultueuse qui nous entraîne avec le boulot, les enfants, la famille. Et on s'oublie beaucoup finalement.
Alors après, je crois qu'on est dans une période justement où les consciences s'éveillent et où les êtres sont de plus en plus appelés à se reconnecter à leur être.
Exactement. Vous savez quoi, Mélanie ? On va faire une petite pause et puis on va conclure tout ça après le journal de minuit, si vous le voulez bien, d'accord ?
Avec joie.
À tout de suite.
Avec joie, Olivier. À tout de suite.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute. Christophe Ondelatte.
Si votre mari vous casse les pieds, si votre femme vous pète les bonbons,
je ne te supporte plus.
Si vos enfants vous donnent des envies de meurtre,
maman, je m'ennuie.
Relax, collez-vous un casque sur la tête et écoutez l'un des 600 podcasts de Ondelatte raconte sur europe1.fr et sur votre application de podcast. Ondelatte raconte, le podcast qui rend le confinement supportable.
Leclerc. On a tous un rôle à jouer pour soutenir les producteurs français. Nous lançons aujourd'hui le ticket Leclerc solidaire. 20% en ticket Leclerc sur les produits frais Origine France. Cette semaine, profitez de la tomate Origine France et des poissons issus de la pêche française Pavillon France. Parce que c'est plus que jamais important de vous régaler et de manger équilibré tout en soutenant les producteurs français. On a tous un rôle à jouer. Vous pouvez compter sur nous.
Leclerc.
Offre valable du 28 mars au 4 avril et réservée aux porteurs de la carte Leclerc, voire conditions en magasin.
Europe 1, il est minuit. Le journal de la nuit, Isabelle Millet.
Et la disparition ce soir à 68 ans de Pape Diouf, on l'a appris il y a un peu plus d'une heure maintenant, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, victime du coronavirus. Il devait être rapatrié aujourd'hui sous assistance respiratoire du Sénégal vers la France, vers un hôpital de Nice à bord d'un avion sanitaire. Mais son état s'est dégradé et il est mort donc aujourd'hui à Dakar. Pape Diouf qui avait été d'abord journaliste, puis agent de joueur avant de devenir le président de l'OM des années plus tard en 2005. Il avait succédé à Christophe Boucher qu'il avait fait venir à l'Olympique de Marseille. Tous deux étaient très proches. Christophe Boucher, bouleversé ce soir par cette disparition.
C'est un peu dur de vous répondre là. Vous savez, Pape Diouf, c'est pour moi un ami de 40 ans. Donc c'est douloureux. C'était de toute façon, Pape était un homme authentique, fidèle à ses convictions. C'est un homme que j'avais rencontré jeune journaliste, à la Marseillaise. Donc. Il avait gardé ses convictions philosophiques, politiques, son amour du foot, son amour du bon football, dont il était capable de parler pendant des heures et des nuits, et ce qu'on faisait d'ailleurs ensemble, pendant des heures et des nuits. Il illustrait d'ailleurs ce qu'était Marseille, sa diversité, quoi. Il incarnait parfaitement l'OM. Il était aussi fier de cette capacité de pouvoir être dans deux mondes extrêmement différents. Fier de sa belle maison à Dakar. Je me souviens qu'il m'a dit, tu sais que tu as ta chambre toujours qui t'attend. Oui, je sais. J'ai toujours ma chambre qui m'attend, mais voilà, elle m'attendra encore longtemps.
Voilà pour l'émotion de Christophe Boucher, joint il y a quelques instants par Julien Fromont et qui réagissait donc au décès de Pape Diouf. De très nombreux joueurs lui rendent hommage ce soir, avec notamment ce tweet tout à l'heure de Kylian Mbappé. « Plus aucune place pour la rivalité », écrit-il. « Je suis très triste d'apprendre le décès d'un monument de notre football ». L'OM doublement endeuillé, puisque vous savez que le club a déjà perdu il y a quelques jours l'un de ses entraîneurs emblématiques, Michel Hidalgo, dont les obsèques dans l'intimité se sont déroulées aujourd'hui. La pandémie de coronavirus qui continue ses ravages sur une planète planète pourtant largement confinée, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni ont battu aujourd'hui leur sombre record de décès journaliers, 499 décès dans notre pays. Le Covid-19 qui fait des ravages dans les EHPAD, notamment à Lorient, dans le Morbihan, 7 résidents sont décédés. Et puis on a aussi appris le décès de 15 résidents d'un établissement pour personnes âgées dépendantes à Mougins, près de Cannes. On apprenait ce matin la mort d'une adolescente de 12 ans en Belgique qui avait succombé au virus. Et ce soir, on a appris la mort d'un jeune de 13 ans au Royaume-Uni. Lui aussi avait été testé positif. Il n'avait pas d'autres pathologies selon sa famille. Les États-Unis ont eux dépassé la Chine aujourd'hui en nombre de victimes avec plus de 3600 morts. Et Donald Trump prévient à l'instant les Américains que les deux prochaines semaines seront très très difficiles et très douloureuses. Des respirateurs et des masques produits en France, c'est le souhait d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État promet d'ici 3 à 4 semaines 1 million de masques chaque jour dans notre pays. Il annonce également qu'un consortium composé de 4 grands groupes industriels vient de se créer avec l'objectif de produire d'ici mai 10 000 respirateurs pour équiper les hôpitaux. Le président souhaite d'ici la fin de l'année atteindre l'indépendance dans ce secteur avec des produits made in France, ne plus être dépendant de la Chine notamment. Ce soir, le gouvernement a annoncé qu'il décalait d'une semaine la déclaration de revenus. C'est une conséquence directe, là aussi, bien sûr, de la situation liée au coronavirus et au confinement. Écoutez les précisions du ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, ce soir sur TF1.
On aurait dû déclarer ses revenus à partir du 9 avril. On le fera à partir du 20 avril. Pour le papier, de donner un mois supplémentaire à nos déclarants, notamment tous ceux qui doivent aller dans les centres des finances publiques. On voit bien que pendant le confinement, ce n'est pas possible, sauf à l'appeler directement au téléphone. On a besoin parfois de contacts physiques. On a jusqu'au 11 juin, quand on est déclarant papier, désormais un mois de plus pour pouvoir remplir sa déclaration de revenus. Les Français trouveront ce soir sur le site impots.gouv.fr toutes les dates par rapport à là où ils habitent pour télédéclarer également.
Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, ce soir, il a aussi souligné que les contrôles fiscaux en cours seraient suspendus et qu'il n'y en aurait pas de nouveaux pendant cette période de confinement, en tout cas dans les secteurs à l'arrêt, comme la restauration par exemple. La météo, on voit ça tout de suite avec vous Anissa Haddadi. Et pour demain, Anissa, des nuages encore présents dans le sud.
Oui, ils sont encore là, effectivement, Isabelle, ces nuages sur les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et les Alpes du Sud. Le ciel est nuageux avec des nuages qui vous apporteront quelques gouttes même sur le Roussillon demain dans la matinée. Le vent d'OTAN, il souffle sur tout ce secteur assez fort, jusqu'à 90 km/h. Sur le bord de la Méditerranée, c'est le vent d'Est qui souffle là toute la journée, jusqu'à 70 km/h sur les Caps Corses. Et partout ailleurs, eh bien, il fait beau demain avec de la Gironde jusqu'aux Alpes, quelques petits passages nuageux mais rien de très inquiétant. Partout ailleurs, c'est du soleil dans un ciel entièrement dégagé. Les températures, elles sont stationnaires avec toujours des gelées matinales. Moins 4 à 10 degrés de Montluçon à Perpignan demain matin. Nous aurons moins 2 à Nancy, 0 à Lille, 1 à Paris, 4 à Brest et 8 à Toulouse. Et puis dans l'après-midi, nous aurons quasiment les mêmes températures qu'aujourd'hui. 11 à Lille et Caen, 13 à Nice et Rodez, 14 pour Paris, 15 à Vannes, 16 à Lyon, 17 pour Limoges et 18 dans le sud-ouest pour Périgueux et Bordeaux.
Votre météo sur Europe 1, signée bien sûr Anissa Haddadi. Et pour ma part, je vous souhaite une excellente nuit, toujours en compagnie évidemment d'Olivier Delacroix et de sa libre antenne.
À demain Isabelle.
À demain Olivier.
Et passez une belle nuit.
Merci.
Europe 1, écoutez le monde changer. Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Passé de 7 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne qui vous accompagne en direct comme tous les soirs jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez, si vous le désirez, composer le 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Vous pouvez nous joindre à ce numéro. Florian vous attend de pied ferme et puis peut-être aurons-nous la chance d'échanger ensemble, chers amis. Nous sommes toujours avec Mélanie qui évoque sa prise de conscience et cette mise en pratique de cette écoute de soi-même. Donc Mélanie, aujourd'hui, vous accompagnez des personnes qui... Quel est le profil de ces personnes ?
Alors en fait, je fais plusieurs accompagnements. Déjà, j'accompagne les entreprises depuis plus de 10 ans, donc collaborateurs, managers et dirigeants. Sur vraiment, j'ai créé des parcours. J'ai la chance, toujours pareil, hein, comme je crois que tout est possible, je m'autorise à créer des choses et j'ai créé des parcours pour vraiment développer l'être et pas les compétences, mais développer qui nous sommes, développer son ouverture de cœur, développer... son intuition, développer sa qualité de présence, sa qualité de communication. Donc j'ai créé des parcours avec eux où je les accompagne sur plusieurs mois, ou en coaching individuel, ou en coaching d'équipe, ou dans des parcours complets. Donc déjà, ça c'est un vrai cadeau parce que c'est des personnes avec qui arrivent ou avec beaucoup de croyances, qui ne se sont pas forcément rencontrées, etc., et qui se transforment en quelques mois. C'est juste merveilleux à vivre et à accompagner. Et puis à côté de ça, j'accompagne les particuliers. Moi, je crois beaucoup forcément par mon histoire à la résilience, et je crois que tout est cadeau, et que si on apprend à prendre la responsabilité sur sa vie, et responsable n'est pas coupable, hein, je précise, parce que pareil, en France, c'est très connoté, mais si par rapport à tout ce qu'on vit, on trouve en soi la manière où on va pouvoir vivre l'expérience pour quelque chose et pas contre quelque chose, ce que je nommerais la résilience, hein, parce que c'est le cœur de la résilience, et de réussir à accepter que l'expérience, et que moi je crois que la vie est toujours là pour nous et jamais contre nous, et que quand on vit une expérience, elle est là pour nous permettre de mieux nous connaître, de mieux nous aimer finalement, parce que ce qu'on a à apprendre, c'est à s'aimer et à être en amour.
Et qu'à partir du moment, du moment que vous avez raison, on pense que la vie est pour nous et non contre nous, ça change énormément de choses et ça change énormément nos capacités à affronter quoi que ce soit. Merci beaucoup, Mélanie, pour votre témoignage ce soir.
Avec grande joie, merci pour cette disponibilité.
Je vous en prie. Et puis, portez-vous bien. Hein.
Merci, vous aussi.
Je vous en prie, passez une belle nuit. Au revoir.
Au revoir.